Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes bien sur Radio Esprit Occitanie, on est le 24 avril 2024 et vous écoutez le 15e épisode de Temps Additionnel. On est ensemble aujourd'hui pour une vingtaine de minutes, encore une fois, autour des actus sport de la semaine, toujours en compagnie d'Alexandre. Adichas à toi.
Adichas Raphaël.
Au menu aujourd'hui, un menu tout autre que celui qu'on avait proposé la semaine dernière, où celui-ci était rempli de victoires. Là, c'est pas trop le cas, on parlera du TEF et de son match face à Marseille. On fera aussi un petit tour d'Europe, puisqu'il y a eu des matchs en Champions et en Europa League. On changera de forme de ballon aussi pour passer du ballon rond au ballon ovale, puisque le Stade Toulousain a aussi joué ce week-end. Et l'autre club de rugby, rugby à 13, cette fois-ci le Toulouse Olympique, a lui cartonné en championnat. On fera un petit tour aussi en Chine, la Formule 1 déposer ses bagages justement en Chine pour ce 5e Grand Prix de la saison. Et puis comme d'habitude, le Phoenix clôturera cette émission et s'en suivra une bande-annonce des événements à venir. Bon, comme un air de déjà vu au Stadium, Toulouse se fait clairement arracher les 3 points de la victoire au dernier moment, comme d'habitude. On la tenait, cette victoire 2-1 contre l'Olympique de Marseille, qu'on n'avait pas réussi à battre depuis 2016. Victoire 1-0 en Coupe de la Ligue. On ne les a tellement pas battus depuis longtemps que la dernière fois qu'on les a battus, c'était dans une compétition qui n'existe plus à ce jour. Elle a disparu, je crois, en 2018, un truc
2019,
comme ça. 2019. Donc bref, match nul de partout, match nul aux allures de défaite pour les Violets et pour les Marseillais aussi. On va rappeler les buteurs quand même, c'est l'OM qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Jean Onana, qui ouvre son compteur de but en Ligue 1, Toulouse aime bien lancer les joueurs ou relancer les équipes. Puis c'est une remontada à la Toulousaine, comme on avait l'habitude, qu'ont subi les joueurs de la cité phocéenne. Et c'est le défenseur danois, le numéro 2 Rasmus Nikolaisen, qui marque de la tête sur corner dans le temps additionnel de la première période. Et il faudra attendre la 82e minute et le but du meilleur joueur sur le terrain pour moi, le numéro 37, Yann Gbo, qui après un solo dans la défense marseillaise, vient fusiller le gardien Paul Lopez. Score donc de 2-1. Ça aurait pu s'arrêter là, parce qu'on a fait ça contre les gros, on a fait ça contre Lille, contre Nice aussi. J'y croyais. Et c'est à la dernière minute du temps additionnel que le drame se produit pour tout un stade qui chambrait déjà les Marseillais de leur défaite. Le but de Faris Moumbagna, qui va nous déclencher une retournée acrobatique franchement du futur, le genre de but que l'on met qu'une seule fois dans une vie, qu'une seule fois dans une carrière, dans une vie, un geste magnifique, donc il faut l'avouer, qui remet les deux équipes à égalité à la dernière seconde et qui met une clim monumentale franchement à tout Toulouse, il fait un gros coup de froid sur la ville rose. On a vu de très bonnes choses côté Toulouse, je retiens la force mentale qu'on arrive à aller chercher à chaque fois pour renverser le score. Et je retiens aussi la performance incroyable, la masterclass de Gbo, qui a fait lever les foules sur l'île du Ramier, qui nous a régalé avec ses dribbles, avec son but, franchement. C'était clairement le meilleur joueur sur le terrain. Et du côté négatif, je retiens encore une fois la non-capacité à garder un score en fin de match. Ça s'est vu surtout contre Le Havre, ou encore une fois contre Marseille. On a dû perdre plus de 20 points depuis le début de la saison, dans les 10 dernières minutes, c'est extrêmement dommage. Mais bon, on commence à s'y habituer, et j'ai un peu calculé, si on n'avait pas perdu ces 20 points, on serait deuxième devant Brest. Donc c'est sûr que c'est un peu utopique, mais bon, ça reflète bien le potentiel de cette équipe, le potentiel un peu gâché, et je retiens aussi quand même la contre-performance totale de Zakaria Bouklal, qui lâchait jamais le ballon, c'était franchement terrible, il lâchait jamais le ballon, on dirait qu'il était au City. T'en penses quoi toi Alex?
C'est vrai, je retiens sur ce que tu as dit par rapport aux magnifiques prestations de Rasmus Nikolaisen et Yann Gbo, qui pour moi méritent d'être l'homme du match. Beaucoup de masterclass de la part de Gbo, mais malheureusement, t'as aussi souligné un bon point sur la contre-performance de Zakaria Bouklal, qui, je rappelle, revient d'une grosse blessure. Donc c'est dommage. Et en tout cas, moi, je pense que Xavi Babica doit jouer plus souvent le temps que Zach soit à 100% sur le terrain. Mais faut aussi dire que je suis tellement frustré de voir que ce match ne s'est pas passé comme prévu. Juste avant l'égalisation, il y a eu faute sur Xavi Babica qui n'a pas été sifflé par Clément Turpin, et ça a conduit au but lunaire à la 96e minute. La retournée acrobatique venue d'ailleurs, la clim. Voilà, comme toujours, on se prend un but à la toute fin. Et comme dit le slogan du TEF, debout, toujours, mais hors temps additionnel.
Évidemment, exactement.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on a gâché trop d'occasions en première période. Et j'ai surtout remarqué chez nos joueurs une peur de tenter des frappes alors qu'ils étaient littéralement si proches qu'ils pouvaient dîner en tête à tête avec Paul Lopez. C'est effrayant. En tout cas, la dernière fois que le TEF a battu l'OM au Stadium en Ligue 1, ça remonte à 2007, l'époque des Elmander, Emana, Sissoko, c'est vraiment une époque lointaine tout ça. Faut pas oublier non plus la victoire du TEF en 2016, comme t'as dit, en Coupe de la Ligue, qui a été dissoute en 2019. Hein. C'est vraiment dommage, parce que j'aimais bien cette compétition. Donc voilà, normalement le maintien en Ligue 1 est assuré, donc on va essayer l'an prochain de rompre les 18 années de malédiction. Donc ouais, même si la déception est là, bah, je me dis que ça aurait pu être pire, genre prendre 0 points au lieu d'un seul. Et vu que le TEF n'a pas perdu depuis 4 matchs, ce serait bien que le club corrige ses erreurs au prochain match contre Lorient, dimanche, au Moustoir. Je fais une petite parenthèse sur l'ambiance d'avant-match. C'était le bazar dans les rues de Toulouse, hein. Vraiment, c'était la guerre. J'étais dans le cortège avec les Indians, direction le stadium, et l'ambiance était hyper tendue avec les supporters marseillais. C'était littéralement une chasse à l'homme.
Bah après, ouais, c'est ça, c'est les supporters marseillais. Hein. C'était sûr qu'il allait avoir quelques affrontements. Tu l'as dit, on joue Lorient le week-end prochain, dimanche à 15h. Lorient, 17ème de Ligue 1, on va faire un petit point sur le classement du coup. Donc Paris, bah, toujours évidemment, premier de cette Ligue 1, suivi par Monaco et Brest qui complètent le podium. Nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est le TEF, hein, forcément, 11ème. Juste devant Montpellier, qu'on va affronter aussi dans les prochains matchs. Donc franchement, on est à 9 points de la zone de relégation. Franchement, ça va aller, je pense. Là, on affronte Lorient, on affronte Montpellier. C'est deux matchs très abordables. Puis il y aura Paris et Brest, ce sera un peu plus compliqué. Mais au niveau du maintien, je pense que ça va le faire. Hein.
Oui, normalement, ça peut le faire. Mais oui, voilà. Il vaut mieux gagner des matchs justement contre Montpellier, contre Lorient, qui sont en difficulté par rapport à nous. Et après, bon, bah, on va dire que Brest et Paris, c'est que du bonus.
Exactement. Lorient qui n'est pas encore totalement... Franchement, qui n'est pas encore totalement sauvé de cette descente en Ligue 2. Ils sont actuellement 17e, Montpellier adversaire direct. Donc, c'est deux gros matchs pour le TFC. Vous l'entendez, cette musique, la Ligue des Champions. Elle nous a offert un spectacle magnifique. Franchement, ces deux dernières semaines, on est obligé de vous en parler. Il y a eu Atletico Dortmund. C'est Dortmund qui s'est qualifié en demi-finale donc face à l'Atletico cumulé. Donc il y a eu 4 partout. Mais franchement, c'était franchement magnifique. Dortmund qui affrontera le PSG, qui a réussi à faire sa propre remontada contre le FC Barcelone. Donc demi-finale le 1er mai et le retour le 7 mai. Donc PSG-Dortmund, ça va être une finale très intéressante, très équilibrée. Et de l'autre côté, contre toute attente, le Real Madrid a réussi à accrocher Manchester City au tir au but. Et le Bayern s'est sorti du piège rouge des Gunners et donc retrouvera le Real Madrid en demi-finale le 30 avril. Franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme demi-finale. Il y aura aussi l'Europa League quand même. C'est une des compétitions aussi les plus importantes en Europe. Et on a vu donc que Marseille, contrairement à Toulouse, s'est défait de Lisbonne. Au tir au but, encore une fois, des Marseillais héroïques, même si je les aime pas par rapport au week-end dernier. Franchement, j'étais derrière eux parce que bon, Lisbonne, bon voilà, Benfica, on les connaît. Donc Marseille qui affrontera l'Atalanta, qui a fait un carton face à Liverpool, franchement, qui les a gagné 3-0 à l'aller. C'est franchement remarquable. Donc Marseille-Atalanta, ça va être très dur pour les Marseillais. Atalanta qui sont en forme olympique, franchement, ça va être pas mal. L'AS Rome qui s'est défait aussi de l'AC Milan, qui affrontera le Bayer Leverkusen, le champion d'Allemagne, qui a défait 10 années de domination bavaroise. Donc moi je vois plus quand même le Bayern, mais justement, côté pronostic, on a une nouvelle rubrique qu'on voudrait vous présenter sur temps additionnel. La rubrique, ça s'appelle, c'est l'instant prono. Alors l'instant prono, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle rubrique qu'on tente avec Alexandre sur Radio Esprit Occitanie. Là on vous a parlé des matchs de Champions League et d'Europa League. Et avec Alexandre, on va balancer nos pronostics pour ces matchs-là. Pas de jeu d'argent, rien du tout, c'est juste... nos avis, et ce sera intéressant de voir comment ont évolué nos avis justement début mai lors des matchs aller et retour de ces grosses compétitions européennes. Donc on va peut-être commencer par toi, Alexandre.
Ouais, tout
à fait. Qui tu verrais d'abord en Champions League puis en Europa League, qui tu verrais en finale, quoi, qui tu verrais soulever la coupe aussi.
Et alors d'abord, je vais commencer par la Ligue des Champions. Il vaut mieux commencer par le haut level, l'élite, bien sûr. L'Europa League, on va en parler après. Alors, c'est vrai que moi, je pense que Dortmund-PSG, Paris a déjà affronté Dortmund il y a quelques mois en phase de groupe. C'était très compliqué pour Paris, mais je me dis avec la confiance qu'ils ont et le fait justement qu'ils ont sorti le Barça, ils ont fait une énorme remontada. Je pense que Paris va gagner contre Dortmund 2-1, à mon avis. Au match aller, au match retour, je pense que ça va se faire. Il y aura match nul. Voilà, moi je pense que le PSG va se hisser en finale. Et bien sûr, je vais parler de Bayern-Real Madrid. Pourquoi il faut tomber sur un duel aussi compliqué que Bayern-Real Madrid? Alors c'est vrai que le Real Madrid, on les connaît, hein, 14 Ligue des Champions remportées à leur actif. Le Bayern qui est pas trop en forme en Allemagne en ce moment avec Harry Kane, qui est malchanceux, hein, ils ont perdu la Bundesliga, ils ont perdu la Coupe d'Allemagne, il ne reste plus que la Ligue des Champions. Mais je pense que le Real Madrid va le faire contre le Bayern. À mon avis, je pense que le Real Madrid va gagner à l'aller 2-0. Et au retour, je pense il y aura aussi match nul, je pense un partout entre le Bayern et le Real Madrid. Donc moi, je verrai bien la finale PSG-Real Madrid. Je bloque ma réponse.
Très très grosse finale en tout cas. Très 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 grosse finale. Et du côté de l'Europa League, tu vois quoi?
Alors oui, tout à fait. Bah, du côté de l'Europa League, c'est vrai que Marseille, c'est vrai qu'ils ont joué avec l'équipe B contre Toulouse, parce qu'il y a eu énormément de blessés. Ils ont fait une performance médiocre contre Benfica, ils ont pu s'imposer, mais c'était très compliqué, sachant que l'Atalanta a battu Liverpool. Liverpool quand même, une grosse équipe. Je pense que l'Atalanta va gagner 2-1 à l'aller, et en retour, je pense que Marseille va faire un comeback et va éliminer l'Atalanta. Alors, ce serait bien que Marseille aille en finale, c'est quand même un club français. Et pour Roma Leverkusen, franchement, le Bayern Leverkusen, ils vont passer, c'est sûr, parce que là... Ça fait depuis tellement longtemps qu'ils n'ont pas perdu un match. Voilà, la Roma, malheureusement, s'est fait battre par Bologne 3-1. Donc, à mon avis, le Bayer Leverkusen bat 3-0, la Roma, littéralement. Sec. 3-0 sec au match aller et au match retour. Allez, je pense que ça va encore se faire. J'ai l'impression qu'il n'y aura que des matchs nuls, mais je ne vois pas le Bayer Leverkusen perdre, ne serait-ce qu'à l'aller comme au retour. Donc en vrai, je peux pas vraiment te dire le match retour, comment ça va se passer, mais je pense que le Bayer Leverkusen va gagner. Donc pour moi, finale Marseille-Bayer Leverkusen, je bloque ma réponse.
Donc Alex, t'as bloqué ta réponse, je vais juste résumer un peu ce que t'as dit. Donc le PSG passerait contre le Borussia et ça donnerait une finale, donc PSG-Real Madrid. Futur club de Kylian Mbappé peut-être, ça pourrait être très intéressant aussi de voir ça de cet œil-là. Et donc, Marseille-Leverkusen. Donc, tu vois, vraiment, Marseille, la surprise, donc passé en finale. Donc, deux équipes françaises en finale européenne. Franchement, t'es très optimiste, mais ça peut se faire. Ça peut se faire.
Ça serait beau. En tout cas, quels sont tes pronostics pour la Ligue des Champions et l'Europa League?
Là, mes pronostics, je pense qu'ils vont être un peu différents. Un peu différents du tien. Bon, côté Dortmund-PSG, ça va être pareil. Hein, même si je pense que le PSG va avoir beaucoup de mal au match aller face au mur jaune de Dortmund. Peut-être... petit match nul ou défaite à l'aller pour le PSG, mais le retour au parc sera, je pense, sera magique et le PSG pourra accéder à sa deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Face à qui? Face au Real Madrid, hein, franchement, je pense pas qu'il y ait de doute, même si le Bayern a sorti Arsenal. C'est un Arsenal qui domine en première ligue, mais c'est pas le plus grand non plus, et le Bayern, c'est pas le plus grand de son histoire, hein, ils viennent de perdre leur série de 10 titres de champion de Bundesliga. Donc franchement, le Real Madrid en pleine forme, ils viennent de gagner le Classico en plus. Pour moi, il n'y a pas de doute sur les Real. PSG-Real en finale, pour moi, je bloque ça. Et pour l'Europa League, je vois quand même l'Atalanta, parce que franchement, la gifle qu'ils ont calée à Liverpool, sachant que Liverpool, ils sont dans le top 3, ils sont dans la course au titre pour la Première Ligue. Donc pour moi, ce sera l'Atalanta qui passera face à Marseille, malheureusement, qui, je pense, est un peu trop faible encore. C'est une équipe encore trop jeune, trop en reconstruction pour peut-être accéder à cette finale. L'Atalanta aussi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais je la sens plus solide que cette équipe de Marseille. Et de l'autre côté, c'est le rouleau compresseur Bayer Leverkusen, hein, je pense, il n'y a pas de doute. Donc pour moi, je vois une finale Atalanta-Bergame Bayer Leverkusen et vainqueur, je pense que c'est le Bayern quand même, le Bayer. Oula, lapsus.
Lapsus,
je suis un peu habitué, désolé. Donc voilà, ouais, finale Atalanta Bayer et victoire du Bayer, franchement, qui rafle tout cette saison. On a des avis un peu différents, c'est intéressant, donc moi personnellement, là, je bloque ma réponse et on vous tiendra au courant, de toute façon, les semaines à venir, hein, c'est quand? C'est le 2 mai et le 9 mai pour l'Europa League, et le 1er mai et le 7 mai pour la Ligue des Champions, donc dans deux semaines.
Ouais, voilà, mais si j'interviens une dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même avis pour l'Europa League, hein. C'est vrai que l'Atalanta, quand même, c'est du lourd contre Liverpool, ouais. Je vais pas te mentir, mais je me dis que Marseille, le fait qu'ils arrivent en demi-finale, il y a justement cette motivation de surpasser l'adversaire qu'est l'Atalanta, qui est très en forme, donc on verra bien ce qui va se passer.
Il y a le peuple marseillais, c'est sûr, donc franchement, non, ça va être très intéressant les prochaines semaines. bon, le derby du Sud qui s'est déroulé au Vélodrome a vu son propriétaire, le RC Toulon, vaincre le visiteur qu'est le Stade Toulousain dans un match sous grosse tension jusqu'à la fin, défaite, donc vous l'avez deviné, de nos stadistes 20 à 19. Nos stadistes donc qui redescendent de leur petit nuage européen pour se plier à la rigueur toulonnaise et à la rigueur du top 14. Donc pas trop de quoi quand même s'inquiéter non plus pour nos Toulousains, bah, c'est une courte défaite hein, d'un point. Certes, on a couru après le score, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe du Stade Toulousain qui est complètement remaniée par Hugo Mola, qui était aligné face à Toulon. J'ai les deux compos devant moi. Il n'y a aucun des 15 joueurs alignés face à Exeter la semaine dernière qui n'était présent au coup d'envoi contre Toulon. Donc c'est le luxe à la Toulousaine quand même de pouvoir aligner deux équipes compétitives différentes. Mais bon, ça n'a pas suffi face à des Toulonnais qui avaient trop faim de victoire, hein, franchement, parce que derrière eux, au classement, ça pousse, hein, les autres rouges et noirs, malgré leur quatrième place, ne sont pas à l'abri de se faire rattraper par l'UBB, par la Rochelle, par la section ou même par l'USAP qui enchaîne sa quatrième victoire d'affilée.
Non, franchement, beau parcours de l'USAP. Hein, et effectivement, c'était une équipe complètement remaniée par Hugo Mola, mais voilà, équipe B ou pas, ça reste le Stade Toulousain et c'est dommage de perdre contre Toulon. Le plus fou, c'est qu'ils ont eu du mal à venir s'imposer contre nous. Alors j'imagine même pas s'il y avait le 15 type. Bon, alors, en même temps, le RC Toulon a joué en infériorité numérique après le carton rouge de Alain Ouézé pour plaquage haut dangereux sur Castro Ferreira. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop eu d'essai entre les deux équipes. D'abord, Lucas Tauzin, qui parvient à aplatir le ballon à la 10e minute. Et au bout de plusieurs pénalités inscrites par Thomas Ramos, c'est l'Espagnol Joël Mercler qui a essayé en vain de réduire l'écart en aplatissant le ballon à la 75e minute après une mêlée proche de la ligne d'en-but toulonnaise. Mais trop tard, score final 20 à 19 pour Toulon. Toulon s'est imposé contre le Stade à 14 contre 15. En soi, le Stade peut garder la tête haute, hein, parce que c'est qu'une défaite en top 14. C'est dommage, oui, mais c'est pas la mort. Hein. Je veux dire, on gère bien en championnat comme en Coupe d'Europe, donc ça peut le faire. Mais attention à ne pas manquer les opportunités pour éviter d'allonger les matchs en play-off pour le Brennus, qui sont interminables. Hein. D'ailleurs, Hugo Mola a rappelé les titulaires au vu du match contre le Racing qui va se jouer le 27 avril à Ernest-Vallon. Voilà, on aura le grand rugby, le grand stade.
Ah bah il fait bien là, parce que bon, c'est bien de privilégier la Coupe d'Europe, mais bon, on se fait quand même doucement rattraper, gentiment rattraper par le Racing qui a enchaîné sa quatrième victoire d'affilée en championnat. Donc bon, ils sont à 4 points. Mais quand même, hein, si on peut garder cette deuxième place, ce serait pas mal. Faut pas tout prendre pour acquis, parce que la semaine prochaine, justement, c'est le Racing. Là, on laisse clairement quand même filer la première place du top 14. Hein. On est maintenant à 6 points du Stade français. Ça va être un peu compliqué. Bon, c'est sûr que c'est pas en rugby au top 14, c'est pas en ayant la première place qu'on devient champion, mais bon. C'est mentalement, c'est mieux de finir premier quand même.
Écoute, si on n'arrive pas à finir premier, vaut mieux rester deuxième. Comme ça, on aura directement le duel Stade français, Stade toulousain, au lieu de faire les autres phases.
Ah ouais, non, sinon c'est galère. Non, vaut mieux pas faire ça. Donc, objectif pour Toulouse, victoire, hein, franchement. Objectif victoire, se relancer après la défaite face à Toulon. On n'est pas dans une très bonne série. Hein. Sur les 5 derniers matchs, on a perdu 3 fois quand même pour un second top 14. C'est pas fou. Donc, il faut se relancer là contre le 3e. Le Racing pour prendre de l'avance sur les Parisiens. On va faire un petit point, on l'avait fait la semaine dernière, un petit point sur nos joueurs du rugby à 13 hein, qui ont pulvérisé Whitehaven à domicile, victoire 40 à 4 pour les Toulousains au stade Ernest-Vallon. Donc ils menaient déjà 22-0 à la mi-temps et c'est donc remarquable ce qu'ont fait nos Toulousains. Et donc ils montent sur la 6e marche du podium et accrochent donc provisoirement les playoffs pour la montée en première division, peut-être pour rejoindre les Dragons catalans l'année prochaine.
Ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, le TO 13 revient en force après 2 matchs sans victoire contre Swinton Lions à Ernest-Vallon et contre Bedford en déplacement. Ce n'est pas qu'une simple victoire contre Whitehaven, hein. C'est une humiliation. 40 à 4, c'est fou. C'est une victoire qui permet au TO de revenir, comme t'as dit, en playoff pour la montée en Super League pour rejoindre l'unique club français, les Dragons catalans de Perpignan, pardon. Mais faut savoir que l'an dernier, nos Toulousains auraient pu rejoindre l'élite. Hein. Mais malheureusement, ils ont chuté en finale contre les Broncos de Londres. Bon, c'était une petite piqûre de rappel, il le fallait, mais je félicite le TO pour cette belle victoire qui promet une hausse de motivation au sein du groupe et espérer un beau parcours. Mais on ne va pas s'arrêter là. Prochain match, le TO se déplace pour affronter l'équipe de Wakefield, leader du classement. Attention, ça va être chaud parce que là, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs.
Ça va être très très chaud, surtout qu'en fait, on est à 4 points, on est 6ème, on est à 4 points. Mais Whitehaven est aussi à 4 points et 11ème, donc c'est très serré. Encore, bon, c'est que le début du championnat, forcément. Mais c'est le moment où il faut prendre de l'avance. Wakefield, adversaire, qui enchaîne 5 victoires, comme tu l'as dit. Match très intéressant donc à l'extérieur. Et on donne tous nos soutiens aux joueurs du Toulouse Olympique. Formule 1, eh ben, poser ses bagages en Chine hein, ce week-end pour le Grand Prix de Chine. Victoire, encore une fois, de Max Verstappen hein, pour changer. Second, Lando Norris est troisième qui vient fermer ce podium, c'est Sergio Pérez, donc dans un Grand Prix où ça a été animé, surtout en milieu de peloton, pour par exemple les Ferrari ou pour les Mercedes. C'était très intéressant à suivre dans les premiers tours. Après, forcément, ben, Max Verstappen, dès les trois premiers tours, s'est envolé et s'est même amusé sous la pluie. Il a dit en interview, hein, j'ai essayé de déraper avec ma Formule 1. Donc franchement, il est vraiment sur une autre planète avec sa Red Bull floquée du numéro 1. Bon, franchement, ça fait plaisir à voir pour lui, mais bon, c'est sûr que on s'intéresse plus maintenant au milieu de tableau. Charles Leclerc et Carlos Sainz, 4e et 5e respectivement, donc complètent le top 5. Donc Ferrari sur une bonne lancée quand même, sur la lancée de ses Grands Prix précédents. Franchement, c'est pas mal. Ils accrochent toujours la deuxième place au classement général des équipes. Et c'est Lando Norris, second. Hein. Toujours des podiums, mais jamais il gagnera ce Lando Norris. C'est pas possible.
Ouais, mais c'est ça. Mais de toute façon, que retourner dans ce Grand Prix de Chine à part le retour de Verstappen qui est toujours inarrêtable. Mais je suis surpris par la deuxième place de Norris alors que j'avais critiqué McLaren pour sa stratégie bancale au Japon. Par contre, à propos de stratégie, ben forcément, les deux Ferrari de Sainz et Leclerc ont eu du mal à s'imposer dans le top 5 pendant une vingtaine de tours. Et j'ai trouvé ça plutôt étonnant. Hein. Et le fait de ne pas voir les deux Alpines de Ocon et Gasly, dernier, ça apporte du positif quand même. Et que dire de la sortie prématurée de Valtteri Bottas, l'ancien bras droit de Hamilton, qui a eu un énorme problème technique avec l'écurie Sauber. Il est obligé de quitter la course, forcément. Et malheureusement, les deux pilotes de chez RB, Tsunoda et Ricardo, ont été victimes d'accrochage. Donc on a eu droit à deux abandons de la même écurie. Déjà qu'au Japon, Ricardo a dû abandonner à cause d'un accrochage avec Albon. Mais en Chine, l'Australien a été une nouvelle fois accroché par le Québécois Lance Stroll. Et ça a provoqué la colère de Ricardo qui a malheureusement abandonné. Pardon. Et Tsunoda qui a dû abandonner aussi à cause de la queue de poisson du pilote danois Magnussen. Bon, ouais, mis à part ça, la Chine, c'est à oublier pour Ferrari qui va devoir faire mieux à Miami.
Exactement, la Formule 1 se déplace à Miami cette fois. Je crois que c'est dans 3 semaines. Donc ça va être un Grand Prix. On va changer de temps forcément. Il pleuvait en Chine, là, Miami, ça va être le soleil. Ça va être le gros événement de ce début d'année en Formule 1. Et tu l'as dit encore, Lance Stroll qui déclenche un accident. Bon, ça fait, c'est pas la première fois, mais bon. Mais...
Ah, il déclenche une nouvelle fois un accident, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est surtout son intervention. Quand il a commencé à accrocher Ricardo, pardon, il a commencé à dire « This idiot », enfin, il a commencé vraiment à insulter. Oui. Tout ça. Je me suis dit, mais il est fou ce type.
De toute façon, en Formule 1, c'est jamais la faute des pilotes, hein. C'est toujours la faute de l'autre. Donc bon, rendez-vous dans 3 semaines pour le Grand Prix de Miami. Donc pour finir, comme d'habitude, on va parler de nos joueurs du Phoenix qui sont revenus avec le point du nul contre Saint-Raphaël, donc 30 partout, donc score final assez incroyable, match à 60 buts, et ça c'est quand même pas mal.
Bah visiblement oui, c'était incroyable, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Le Phoenix a fait bronzette, je les comprends, on se rapproche de l'été, c'est normal, en plus ils étaient en Côte d'Azur. Je pensais que le Phoenix allait mieux aborder la rencontre quand même, hein. Je suis un peu déçu, mais beaucoup de buts sont à souligner, 30 partout. Et dire que le Phoenix était sur le point de gagner en marquant 3 minutes avant la fin du match, pour au final se faire égaliser 50 secondes après. C'est dur. Limoges a encore gagné et est donc toujours derrière le Phoenix avec 3 points d'écart. Il faut conserver la 4ème place par n'importe quel moyen, même y déposer un brevet en dernier recours si c'est nécessaire. Donc le Phoenix va devoir battre les Raptors de Saran-Loiret à la maison, au Palais des Sports et espérer une défaite de Limoges pour pouvoir les distancer.
Là, il n'y a que ça à espérer franchement parce que bon, ils sont pas sur la meilleure série de leur vie les joueurs du Phoenix. Ça va être aussi assez compliqué. Donc on verra bien. Hein. Match à domicile, on espère que les supporters pourront venir pousser nos joueurs pour accrocher cette 4ème place.
En plus là, ça rend Loiret qu'on va affronter. Non, avant ils étaient derniers. Là, ça va mieux. Mais on va dire qu'ils sont dans le bas du classement de Star League. Donc ça peut le faire peut-être pour le Phoenix.
Donc c'est pas le même objectif donc pour les deux équipes.
Mais en fait, on va dire que Saran, c'est une question de se maintenir et le Phoenix, c'est conserver sa place.
C'est l'Europe. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est voilà. L'Europe.
Hein. Donc deux équipes très différentes, deux objectifs très différents. Donc rendez-vous le week-end prochain pour ce match. C'est l'heure pour finir cette émission de la petite bande-annonce de ce qui va se passer la semaine à venir et les semaines à venir, j'ai envie de dire. On aura le match du TFC contre Lorient à l'extérieur le 29 avril, dimanche, 15h, au Moustoir, donc l'occasion pour le TFC de se relancer. Après le match nul face à Marseille, Lorient 17ème, donc il joue clairement le maintien. Nous, on joue peut-être une place européenne, on peut peut-être encore rêver, donc bon, on verra bien. Il y a le Racing qui va affronter donc le Stade Toulousain à domicile, donc le Stade Toulousain qui va accueillir le Racing 92 le 27 avril L'occasion aussi pour nos Toulousains de se relancer, hein, aussi Toulouse se relance là. Phoenix doit aussi se relancer, donc franchement, ça va être très intéressant ce week-end. Le 3 mai, on en a parlé, on aura le Grand Prix de Miami, le Grand Prix des Strass, le Grand Prix des Paillettes. On espère peut-être une victoire pour changer un peu de Ferrari ou même de McLaren, hein, moi je prends franchement si c'est pour changer. Il n'y a pas de souci, on aura aussi l'UFC qui reprendra le 28 avril. Le retour aussi, je sais pas si vous avez vu le retour de McGregor qui reviendra en juin, c'est le retour franchement qu'il faut pas rater. Si vous aimez un peu la bagarre, et ouais. Cédric Doumbé aussi retournera à l'UFC en mai pour récupérer un peu sa crédibilité face à, après la défaite face à Baki.
J'espère qu'il aura pas une épine dans le pied cette fois-ci.
Ah, franchement, j'espère que le ring sera tout lisse pour Cédric. En tout cas, bon, on lui souhaite bonne chance. Et voilà, c'est la fin de cette 15e édition de Temps Additionnel. Merci à la radio de nous accueillir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aussi à Alex de m'avoir accompagné sur cette émission.
Bah écoute, hein, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup à Radio Esprit Occitanie. En vrai, c'était un grand plaisir de parler avec toi sur tout ce qui s'est passé. Malgré les défaites des clubs toulousains, bon, on reste soudés quand même. Et on espère de bonnes victoires à l'avenir.
Oui, oui voilà. Bon, le principal, c'est qu'on se régale toujours à vous transmettre ces informations-là. On a testé donc un nouveau concept, on attend les retours pour voir si on le continue ou pas. Donc avec Alexandre, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine.